Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Bezvachim, page 91, Daf Tzadik Aleph. Bonne écoute et bon limoud.
Vafalgav de Moussafim Kedishé, et cela, bien que les sacrifices spéciaux offerts à l'occasion des fêtes sont plus sacrés que les sacrifices journaliers, puisque finalement, ils sont offerts en l'honneur du Shabbat ou des fêtes. La Gemara répond, à tout Shabbat, le Moussafim Ahanaï, le Tmidim Lohanaï, est-ce que la sainteté du Shabbat n'a servi à accorder une sainteté spéciale uniquement au Korban Moussaf, aux sacrifices spéciaux offerts pour le Shabbat, et pour le sacrifice journalier offert aussi ce Shabbat, la sainteté du Shabbat n'a pas servi? Autrement dit, le sacrifice journalier, donc le Korban Tamid, qui est sacrifié pendant Shabbat, est aussi spécial car il a aussi sur lui la sainteté du Shabbat. Finalement, nous pouvons considérer qu'il est aussi sacré que le sacrifice spécial offert pour Shabbat. Finalement, on ne peut rien prouver de là. La Gemara dit, Tashma, vient écoute une preuve d'un autre passage de la Mishnah, qui dit, Moussafé Shabbat Kodmin le Moussafé Rosh Chodesh. Les sacrifices spéciaux offerts pour Shabbat précèdent l'offrande des sacrifices spéciaux offerts à l'occasion de Rosh Chodesh, le début du mois, si Rosh Chodesh tombe à Shabbat. Et cela, bien que les sacrifices spéciaux offerts pour Rosh Chodesh peuvent être considérés comme étant plus sacrés, et la raison pour laquelle les sacrifices de Shabbat précèdent ceux du Rosh Chodesh, c'est justement parce qu'ils sont plus réguliers. La Gemara répond, à tout Rosh Chodesh, le Moussafim Didé Ahane, le Moussafé Shabbat Lohane, est-ce que la sainteté de Rosh Chodesh n'a servi que pour les sacrifices spéciaux, donc les Moussafim, qui sont offerts pour Rosh Chodesh et ne servent pas pour le Moussaf, le sacrifice spécial offert du Shabbat qui tombe le même jour? Autrement dit, puisque Rosh Chodesh tombe à Shabbat, tous les sacrifices offerts ce jour, les sacrifices du Shabbat inclus, ont aussi la sainteté spéciale de Rosh Chodesh. Finalement donc, il n'y a aucune raison de faire précéder les sacrifices de Rosh Chodesh à ceux du Shabbat, et c'est donc les sacrifices journaliers ou plus réguliers qui précéderont les autres. La Gemara dit, Tashma vient coûte une preuve d'un autre passage de la Mishnah qui dit, Moussafé Rosh Chodesh Kodmin le Moussafé Rosh Hashanah, les sacrifices spéciaux offerts à Rosh Chodesh précèdent ceux offerts pour Rosh Hashanah, le jour de l'an, car finalement le jour de l'an est aussi un début de mois. Afalgav de Rosh Hashanah Katcha, et cela, bien que les sacrifices spéciaux offerts pour Rosh Hashanah sont plus sacrés, car Rosh Hashanah est considéré comme étant un jour de fête, donc plus sacré que Rosh Chodesh. La Gemara répond, à tout Rosh Hashanah le Moussafé d'Idea Ané, le Moussafé Rosh Chodesh Lohané, est-ce que la sainteté spéciale de Rosh Hashanah n'a servi que pour les sacrifices spéciaux, les Moussafim offerts pour Rosh Hashanah, et ne servent pas aussi pour les sacrifices spéciaux offerts pour Rosh Chodesh? Autrement dit, puisque Rosh Hashanah tombe aussi Rosh Chodesh, les sacrifices spéciaux de Rosh Chodesh ont aussi en eux la sainteté de Rosh Hashanah. Par conséquent, c'est le critère de la régularité qui l'emporte. Tashma, viens écoute une preuve d'une Mishnah dans Maseret Brachot Daf Nun Alef Amud Bet concernant l'ordre des bénédictions qu'il faut réciter pour le Kiddush. Il y a en effet une discussion entre Beit Shammai et Beit Hillel. Est-ce que c'est la bénédiction sur le vin qui précède la bénédiction du Kiddush, ou bien c'est le contraire? Alors Beit Hillel présente deux arguments pour prouver que c'est la bénédiction sur le vin qui précède celle du Kiddush. Premièrement, parce que c'est grâce à la coupe de vin qu'on peut réciter le Kiddush. Sans la coupe de vin, on ne peut pas le réciter. Davar acher, autre argument, Birkat Hayayin Tedira, la bénédiction sur le vin est régulière, car elle se dit à n'importe quelle occasion lorsqu'on veut boire du vin, ou Birkat Hayom Ena Tedira, tandis que la bénédiction de la journée, donc la bénédiction du Kiddush, n'est pas régulière, car elle n'est récitée qu'une fois par semaine. Ve Tadir, Ve She'eno Tadir, Tadir Kodem. Et lorsqu'il y a une mitzvah régulière, une autre qui n'est pas régulière, Tadir Kodem, c'est l'accomplissement de la mitzvah régulière qui précède l'autre. Alors la Gemara constate, Afalgav de Birkat Hayom Kadisha, et cela bien que la bénédiction de la journée, donc le Kiddush, est plus sacrée, car elle concerne le Shabbat, tandis que la bénédiction sur le vin ne concerne pas Shabbat. Quand même, nous voyons que c'est le critère de la régularité qui l'emporte. Alors la Gemara répond, tout Shabbat le Birkat Hayom Ahanai, le Birkat Hayayin Lo Ahanai? Est-ce que la sainteté du Shabbat n'a servi qu'à la bénédiction de la journée, donc du Kiddush, et n'a rien servi pour la bénédiction sur le vin? Autrement dit, puisque la bénédiction sur le vin vient accompagner le Kiddush, finalement, celle-ci a aussi le statut de sainteté du Shabbat. C'est pourquoi c'est le critère de la régularité qui l'emportera. La Gemara dit, Tashma, bien écoute une preuve de l'enseignement suivant. D'Amar Rabbi Yochanan, concernant le cas d'une personne qui n'a pas encore récité la prière de Moussaf, et l'heure où on peut réciter la prière de Mincha est déjà arrivée. Or là-dessus, il y a une discussion entre des Tanaïm, à savoir, est-ce que cette personne récitera en premier la prière de Mincha ou celle de Moussaf. Alors Rabbi Yochanan dit là-dessus, Halakha, la Halakha est, Mitpalel Adam Shel Mincha Bachakar Shel Moussafim. Cet homme récitera d'abord la prière de Mincha, puis après celle de Moussaf. Et cela car la prière de Mincha est plus régulière, et cela bien que la prière de Moussaf est plus sacrée, car elle concerne le jour du Shabbat ou de la fête. La Gemara répond à tout Shabbat le Tfilat Moussafim Anaï, le Tfilat Mincha Lo Anaï. Est-ce que la sainteté du Shabbat n'a servi à accorder de la sainteté uniquement à la prière de Moussaf et n'a pas servi à accorder de la sainteté à la prière de Mincha? La prière de Mincha du Shabbat a aussi la sainteté du Shabbat. Donc c'est pourquoi c'est le critère de la régularité qui l'emportera. La Gemara dit, Tashma, viens écoute une preuve d'un passage de notre Mishnah. Notre Mishnah dit, Shlamim shel emesh, chatat ve'asham shel yom. Si il y a à offrir un korban shlamim qui a été emmené au Beit HaMikdash la veille, et un korban chatat ou un korban asham qui ont été amenés aujourd'hui, selon l'opinion de Rabbi Meir, shlamim shel emesh kodmim, c'est les korban shlamim qui ont été amenés la veille, qui précèdent l'offrande du korban chatat qui a été amené aujourd'hui. Et cela parce que, comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah, c'est une dégradation pour un sacrifice de rester tellement longtemps dans le Beit HaMikdash sans être offert. Alors nous pouvons déduire de là, ha idi veididiyom, si celui-ci et celui-ci, donc le korban shlamim et le korban chatat, avaient été emmenés aujourd'hui, chatat ve'asham kadme, il est évident que c'est l'offrande du korban chatat ou du korban asham qui précéderont l'offrande du korban shlamim. Et ce, ve'afalgab des shlamim te dirait, bien que l'offrande d'un korban shlamim est plus régulier car il est plus courant. D'ailleurs, comme le précise le Ha'el et Hashachar, à plus forte raison qu'on aurait pu prouver cela de l'opinion des Chachamim, qui disent que même dans le cas de Korban Shlamim qui ont été amenés la veille, c'est l'offrande du Korban Khatat et du Korban Hasham qui le précède. Cependant, la Gemara a voulu prouver cela même de l'opinion de Rabbi Meir, que le critère de la sainteté l'emporte sur le critère de la régularité. Alors la Gemara répond à Marava, Matsui Kaamart, parles-tu de quelque chose de courant? Il est évident que lorsqu'il y a quelque chose de courant, mais qui n'est pas régulier, car il n'y a pas d'obligation régulière d'offrir un korban shlamim qui se présente en même temps que quelque chose de plus sacré que lui, que c'est le critère de la sainteté qui l'emportera. C'est-à-dire, Kamibayalan, la question que nous nous sommes posée, c'est lorsqu'il y a quelque chose qui répond au critère de régularité, qui s'oppose à quelque chose qui a le critère de sainteté. Matsui, mais lorsqu'il s'agit de quelque chose de courant, mais qui n'est pas forcément régulier, lokamevayalan, nous n'avons pas de questions à ce sujet. Comme nous l'avons dit, c'est le critère de la sainteté qui l'emporte. Amarle, Rav Huna bar Yehuda le Rava, Rav Huna fils de Yehuda posait la question suivante à Rava, à tout matsui lav, c'est-à-dire, est-ce que quelque chose qui est courant, même s'il n'est pas forcément régulier, n'a pas le statut de quelque chose de régulier? Et donc, nous pouvons quand même apporter une preuve de notre Mishnah. D'Atania, pourtant, il est enseigné dans une Braïta qui concerne l'obligation d'offrir un Korban Khatat. L'offrande du Korban Khatat est obligatoire lorsqu'une personne transgresse par erreur une interdiction sanctionnée par la peine du retranchement dans le monde futur. La Braïta dit que l'offrande du Korban Khatat n'est obligatoire que lorsqu'une personne a transgressé un commandement négatif sanctionné par la peine du retranchement dans le monde futur. Mais s'il s'agit d'un commandement positif sanctionné par la peine du retranchement dans le monde futur, comme l'obligation d'offrir le Korban Pessah ou bien l'obligation de la circoncision, il n'y a pas de Korban Khatat à offrir. Alors la Braïta cherche à prouver cela, et elle commence par le prouver d'un pasouk dans Vaikra Dalet concernant l'obligation d'offrir un Korban Khatat. Le pasouk dit « Asher Lote Asena », donc celui qui transgresse une interdiction qu'il ne faut pas faire, il s'agit donc d'un commandement négatif. La Braïta poursuit. Otsi et à Pessah, j'exclurai l'obligation d'offrir un korban Pessah qui en fait est un commandement positif, comme nous l'avons dit, chez Notadir, car il ne s'agit pas d'une obligation régulière. En fait, c'est une obligation qui n'existe qu'une fois par an. Velo Otsi et Amila, chez Itedira, mais je n'exclurai pas l'obligation de la circoncision qui est régulière. En fait, on ne peut pas dire que l'obligation de la circoncision est régulière, mais plutôt courante. Car cette obligation n'existe que pour la naissance d'un garçon, qui n'est pas forcément régulière. Nous voyons donc, en tout cas, nous voyons que la Braïta emploie l'expression de tadir, donc régulière, pour quelque chose qui est simplement courant. L'Agmara répond, Maï tedira, que veut dire le terme de tedira en ce qui concerne l'obligation de la circoncision? Tedira be mitzvot. La Braïta voulait simplement dire que l'obligation de la circoncision est accompagné d'une série de commandements. En effet, la Torah mentionne 13 fois que la circoncision est une alliance entre HaKadosh Baruch Hu et l'Ebnei Israël, et ce commandement donc est mentionné le même nombre de fois. Et c'est cela que ce commandement a de plus que l'obligation d'offrir le Korban Pessah. Il se peut aussi qu'une personne qui transgresse cette obligation de la circoncision transgresse sans arrêt ces 13 alliances ou ces 13 commandements, et celui qui l'accomplit, accomplit aussi sans arrêt ses 13 alliances et commandements. Donc, même si l'action de la circoncision n'est pas forcément régulière, mais les commandements la concernant sont réguliers. Et c'est donc cela que la Braïta voulait dire. Veibaitema, et si tu veux, je te donnerai une autre réponse. Mila, le gabé Pessah, lorsqu'on considère l'obligation de la circoncision par rapport à l'obligation d'offrir le Korban Pessah, quitte à dire Damia, nous pouvons considérer que l'obligation de la circoncision est régulière, car celle-ci peut se passer chaque jour, tandis que l'offrande du Korban Pessah ne se passe qu'une fois par an. Mais lorsque nous voulons évaluer l'offrande du Korban Shlamim par rapport à l'offrande du Korban Khatat, il est vrai que l'offrande du Korban Shlamim est plus courante que l'offrande du Korban Hasham, mais on ne peut pas considérer pour cela que l'offrande du Korban Shlamim est plus régulière que l'offrande du Korban Hasham, car en fait, ils peuvent avoir lieu tous les jours. Donc finalement, la question reste sans réponse. Ibaya Lehu, le Chachamim se sont posé la question suivante. Tadir Veshen ou Tadir, dans une situation où il y a deux sacrifices, un régulier et l'autre pas régulier, Vekadim Veshachat Leshen ou Tadir, et le Kohen s'est trompé, et il a sacrifié, donc égorgé en premier, le sacrifice qui n'est pas régulier. Maï, qu'en est-il? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il doit faire? Mi Amrinan, est-ce que nous dirons qu'Ivan décharté, puisqu'il l'a déjà égorgé, Makrivle, il continue à l'offrir, c'est-à-dire il aspergera son sang et l'offrira sur l'autel, Odilma, ou bien, puisqu'en fait, il doit s'occuper du sacrifice régulier, Yahiv le acher de Memares Bedamo, il donnera le sang de ce premier sacrifice qu'il a égorgé à une autre personne pour qu'il remue son sang afin qu'il ne coagule pas, ad de makrivle l'étadir, jusqu'à ce qu'il sacrifie le sacrifice régulier, behadar makrivle shenotadir, puis ensuite, il offrira, donc il aspergera le sang du sacrifice qui n'est pas régulier. Ragmar diyama rabhuna misura, tashma, vient écoute une preuve d'un passage de notre Mishnah. Notre Mishnah dit, shlamim shel emesh, khatat ve asham shel yom, s'il se trouve au Bet Amigdash un korban shlamim de la veille, donc qui a été apporté la veille, mais qui n'a pas été encore égorgé, et un korban khatat ou un korban hasham qui ont été apportés aujourd'hui pour être sacrifiés. Rabbi Meir dit, shel emesh kodem leshel yom, le sacrifice de la veille, donc le korban shlamim de la veille, précède l'offrande du korban khatat ou du korban hasham d'aujourd'hui. Et cela parce que, comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah, c'était une dégradation pour le sacrifice de rester tellement longtemps dans le Beit HaMikdash sans être sacrifié. Nous pouvons donc déduire de là, Hadeyom Dumia Dehemesh, s'il y a deux sacrifices qui ont été amenés aujourd'hui, mais dans la même situation que le cas où un des deux sacrifices a été apporté la veille, Vehechidami, et comment cela se présente, Dekadim Charte Leshlamim, c'est dans le cas où il a fait devancer l'offrande du Korban Shlamim et il l'a donc égorgé avant d'avoir égorgé et sacrifié le Korban Khatat et le Korban Hasham. C'est-à-dire, à ce stade, l'Agmara comprend que même Rabbi Meir aurait été d'accord que si on n'avait pas encore sacrifié le korban shlamim de la veille, il est évident que l'offrande du korban khatat et du korban hacham, qui sont plus sacrés, précéderont l'offrande du korban shlamim, même s'il a été apporté la veille. Forcément donc, il s'agit d'un cas où le korban shlamim de la veille a été égorgé. C'est pour cela que selon Rabbi Meir, son offrande précède la sacrification du korban khatat et du korban hacham. Mais s'il s'agissait d'un korban shlamim d'aujourd'hui, et qui a été égorgé par erreur avant l'offrande du korban khatat et du korban hacham, khatat v'hacham kadme, l'offrande du korban khatat et du korban hacham précéderont la suite de l'offrande du korban shlamim. La Gemara réfute, Dilma shlamim de emesh v'khatat v'hacham de yom hechimash kachatla, peut-être que le cas présenté par la Mishnah d'un korban shlamim de la veille et d'un korban khatat et d'un korban hacham d'aujourd'hui, comment se présente-t-il? Deshartinhu le tarvayu, il se présente dans le cas où ils ont été égorgés tous les deux. Il faut de toute façon faire attendre le sang d'un des deux sacrifices en le remuant pour éviter qu'il ne coagule. Et c'est dans ce cas que Rabbi Meir dit que puisqu'il s'agit d'un korban shlamim de la veille, c'est lui qui sera offert en premier. Et dans ce cas, nous déduirons effectivement que s'il s'agit d'un korban shlamim d'aujourd'hui, c'est le korban khatat ou le korban hacham qui seront offerts en premier. Aval lo shartinu le tarvayu, mais s'ils n'avaient pas sacrifié tous les deux, mais seulement un seul, celui qui n'est pas régulier, Tibelar, tu peux te poser la question, est-ce que c'est celui qui a été sacrifié qui sera offert, ou bien on fera attendre le sang de ce sacrifice en le remuant pour éviter qu'il ne coagule, et on sacrifiera le sacrifice régulier en premier. Nous noterons que selon cette réfutation de la Gemara, en ce qui concerne le cas présenté par la Mishnah d'un korban shlamim de la veille et d'un korban khatat ou d'un korban hacham d'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de différence si tous les deux ont été sacrifiés ou aucun des deux n'a été sacrifié, puisque la raison pour laquelle il faut offrir le korban shlamim en premier, c'est parce qu'il a été amené la veille. Mais puisque de cette Mishnah, nous déduisons que la seule raison pourquoi le korban shlamim est offert en premier, c'est parce qu'il est de la veille, mais s'il est d'aujourd'hui, il ne sera pas offert en premier, la Gemara a dû préciser qu'il sera offert en deuxième, même dans le cas où les deux sacrifices ont été sacrifiés. Mais si aucun des deux sacrifices n'a été sacrifié, il est évident que c'est le korban khatat ou le korban hacham qui seront offerts en premier, étant donné que le korban shlamim a été aussi amené au Beit HaMikdash aujourd'hui. La Gemara dit, Tashma, viens, écoute une preuve d'une Mishnah dans Masechet Brachot, Daf Nun Alef Amud Bet, que nous avons vu plus haut. Il s'agit de la bénédiction du vin et de la bénédiction du kiddush, à propos desquels il y a une discussion entre Beit Shammai et Beit Hillel, à savoir quelle des deux bénédictions sera prononcée en premier. En Beit Hillel disent que c'est la bénédiction sur le vin qui sera prononcée en premier. Premièrement, parce que c'est grâce à la coupe de vin que cette bénédiction du Kiddush est aussi récitée. Davar acher, deuxième argument, Birkat Hayayin Tedira, la bénédiction sur le vin est régulière, on l'a dit souvent. Ou Birkat Hayom Ena Tedira, tandis que la bénédiction de la journée, donc le Kiddush, n'est pas régulière, car elle ne se prononce qu'une fois par semaine. Vetadir Veshenot Adir, lorsqu'il y a deux commandements à accomplir, un qui est régulier et l'autre qui n'est pas régulier, Tadir Kodem, c'est le commandement régulier qui précède l'autre. Alors la question se pose, étant donné que le Shabbat est rentré avant qu'on ne se prépare à faire le Kiddush en amenant une coupe de vin, on aurait dû prononcer la bénédiction du Kiddush en premier. L'Agma répond, à Hanami ici aussi, des Kibin de Atian, puisqu'ils sont venus tous les deux, c'est-à-dire la coupe de vin est présentée devant nous avant qu'il n'ait commencé le Kiddush, Keman de Shrite Tarvayudami, c'est comme la situation où les deux sacrifices sont égorgés et il faut donc décider lequel des deux sera offert en premier. C'est-à-dire, puisque comme nous l'avons expliqué, la question se pose uniquement lorsqu'il a égorgé celui qui n'est pas régulier, sinon il est évident que nous suivons le critère de la régularité. Donc dans cette situation où il n'a pas encore commencé à prononcer la bénédiction, nous suivrons le critère de la régularité. Tashma, viens écoute une preuve de l'enseignement suivant. D'Amar Rabbi Yochanan, concernant le cas d'une personne qui n'aurait pas récité la prière de Moussaf avant qu'on arrive le moment où on peut déjà réciter la prière de Mincha. Bon, là-dessus, il y a une discussion entre des Tanaïm. Quelle prière sera récitée en premier? Alors Rabbi Yochanan dit, Halacha, la halachae, mitpalel adam shel mincha, bachakar shel musafim. En premier, cette personne récitera la prière de Mincha, puis ensuite celle de Moussaf. Voilà cela, car la prière de Mincha est plus régulière. Alors ici aussi la question se pose, puisque le moment de réciter la prière de Moussaf est arrivé en premier, c'est donc celle-ci qui aurait dû être récitée en premier, bien que la prière de Mincha est plus régulière. L'Agma répond, Hachanami ici aussi, qui vand debate zman tfilat Mincha, puisque le moment de réciter la prière de Mincha est arrivé, alors qu'il n'avait pas encore commencé à réciter la prière de Moussaf, keman deshrite tarbayudami, c'est comme la situation où les deux sacrifices sont égorgés, et la question est à savoir, lequel des deux sera offert en premier? Tandis que, comme nous l'avons expliqué précédemment, la question se posait, c'est lorsque le sacrifice qui n'est pas régulier a été égorgé, tandis que l'autre n'avait pas été encore égorgé. Mais dans ce cas où les deux prières sont à réciter, nous suivrons le critère de la régularité. Amarle Ravacha Bereh de Ravachil Rabina, voici une preuve d'une Mishnah dans Maseret Psachim d'Af Samech Alef concernant l'offrande du Korban Pesach. Shachto Kodem Chatzot, s'il l'a égorgé donc le Korban Pesach avant midi, Pasoul, il est invalidé, Mipne Shenei Marbo, car à son sujet le Pasouk dit dans Shemot Yudbet Ben Arbaim, l'après-midi, donc impérativement, il doit être sacrifié l'après-midi et non pas avant midi. Kodem le Tamid, mais s'il a été égorgé avant l'offrande du sacrifice journalier de l'après-midi, mais après-midi, Kacher, il sera valable, cependant, Veyehe Memares Bedamo, il devra remuer son sang pour éviter qu'il ne coagule, Hachizrok Adam, jusqu'à ce qu'il asperge le sang du Korban Tamid, puis ensuite, il pourra asperger le sang du Korban Pessah. Donc apparemment, même s'il a égorgé le Korban Pessah, il doit arrêter son offrande pour sacrifier le Korban Tamid, donc le sacrifice journalier de l'après-midi, pour poursuivre l'offrande du Korban Pessah. Takma répond à Chabé Maeskinan, ici de quoi il s'agit, que Gon de Kadim Shachte le Tamid Berecha, il s'agit d'un cas où avant de venir poser la question, il a d'abord égorgé le Korban Tamid, donc finalement ils sont tous les deux égorgés, puis il est venu poser la question à savoir quel des deux sangs sera aspergé en premier. Mais dans le cas où le Korban Pessah a été égorgé avant le Korban Tamid, il est possible que son sang sera aspergé avant de sacrifier le Korban Tamid. Amar le Rav Acha Sava le Rav Vashi, Matnitin Namideka, tu peux effectivement déduire que c'est de cela qu'il s'agit, de la Mishnah elle-même, des Katané, car il est enseigné dans la Mishnah qu'il faudra remuer le sang du Korban Pessah pour éviter qu'il ne coagule, Hachi Yizrok Adam, jusqu'à ce qu'il asperge le sang du Korban Tamid. Velo Katané, il n'est pas enseigné dans la Mishnah, Hachi Yishrot Ve Yizrok Dam, jusqu'à ce qu'il égorge et qu'il asperge le sang du Korban Tamid. Donc nous pouvons déduire de là qu'en fait le Korban Tamid a aussi été égorgé et la question est à savoir quel des deux sangs sera aspergé en premier. Et là-dessus la Mishnah dit qu'il faudra faire patienter le sang du Korban Pessah pour asperger en premier le sang du Korban Tamid. La Gemara conclut, Shema Amina, effectivement c'est une bonne preuve. Donc apparemment la conclusion de la Gemara est que s'il a égorgé le sacrifice qui n'est pas régulier en premier, il terminera son offrande avant de sacrifier le suivant. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Ubekulam, Kohanim, Rechaim, etc. » Et pour tous ces sacrifices destinés à être consommés par les Kohanim ont le droit de vérifier leur mode de consommation. Ils peuvent manger cette viande soit grillée, soit mijotée, soit cuite. Alors la Gemara demande « Maïtama, pourquoi, d'où le sait-on » La Gemara répond « Amakra, le Pasuk dit dans Bamidbar Yutret, après avoir énuméré les sacrifices ou les parties de sacrifices destinées à être consommées par les Kohanim, alors le Pasouk dit, c'est à Kadosh Baruch Hu qui s'adresse à Aaron à Kohen, je te les ai donnés, les Moshra, qui veut dire l'Igdoula, à titre de grandeur. De là nous pouvons apprendre que derer Shem Malachim Ochlim, ils seront consommés de la même manière que les rois consomment leur nourriture. Donc, de même que les rois varient leur nourriture et leur cuisson, les Kohanim le feront aussi pour consommer la viande des sacrifices. Nouvelle Mishnah. Amar Rabbi Shimon, Imraita Shemen Shehu Mitchalek Ba'azara, si tu vois de l'huile qui est partagée dans la cour du sanctuaire pour être consommée par les Kohanim, En Tsarich Lishol Mahu, il n'est pas nécessaire de demander qu'est-ce que c'est cette huile, car il y a uniquement deux possibilités, et la Motar Rekike Menachot Israël, cela ne peut être que le reste de l'huile emmené par l'Israël lorsqu'il a offert une offrande à base de farine sous forme de galette cuite au four. Comme le passouk l'explique dans Vaïkrabet, ces galettes sont ointes avec de l'huile qui accompagne donc cette offrande. La quantité d'huile qu'il faut amener, c'est un log d'huile. Donc le reste de cette huile sera partagé entre les Kohanim pour être consommé. Velug Shemet Shel Metzora, la deuxième possibilité, c'est qu'il s'agit du reste du log d'huile offert par le lépreux lorsqu'il a offert ses sacrifices de purification. Imraïta Shemen Shehu Nitan Algabeha Ishim, si tu as vu de l'huile qu'on met sur le feu, sur l'autel pour être brûlé, En Tsarich Lishol Mahu, il n'est pas nécessaire de demander qu'est-ce que c'est que cette huile, car il n'y a aussi là que deux possibilités. Et la motar rekike minchat kohanim, c'est le reste d'huile offert par le Kohen lorsqu'il a offert une offrande à base de farine sous forme de galette. Donc, comme nous l'avons expliqué précédemment, ces galettes sont ointes avec de l'huile. Puisque toute l'offrande du Kohen est brûlée par le feu, elle n'est pas partagée entre les Kohanim, le reste de cette huile sera aussi brûlé sur l'autel. Ou minchat Kohen Mashiach, ou bien il s'agit du reste de l'huile offerte par le Kohen Gadol lorsqu'il offre son offrande à base de farine journalière. En effet, le Kohen Gadol doit offrir tous les jours une offrande à base de farine partagée en 12 pains, dont la moitié est offerte pour être brûlée sur l'autel le matin, l'autre moitié l'après-midi. Cette offrande est accompagnée cette fois de 3 lougs d'huile, dont une partie est mélangée dans l'offrande, tandis qu'une autre partie est utilisée pour faire frire ses pains. Le reste de l'huile est offerte pour être brûlée sur l'autel, comme toute offrande offerte par le Kohen. Et tout cela pour dire, chez En Mitnadvin Shemen, car une personne ne peut pas offrir d'huile pour être offerte dans le sanctuaire, donc à titre de générosité. Donc c'est pour cela que si on voit de l'huile partagée entre les Kohanim ou brûlée sur l'autel, il n'y a pas à penser qu'il s'agit d'une offrande qui serait uniquement de l'huile. Rabbi Tarfon Omer, Mitnadvin Shemen, on peut offrir de l'huile pour une offrande à titre de générosité comme Mincha. La Gemara expliquera.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Tzadeh Aleph Amud Bet. Nous avons vu donc dans la Mishnah que selon Rabbi Tarfon, une personne peut offrir de l'huile à titre de Mincha. La Gemara dit là-dessus, Amar Shmuel, les divrei Rabbi Tarfon, selon l'opinion de Rabbi Tarfon, Hamitnadev Shemen, celui qui offre de l'huile en tant que sacrifice, comme Tso, le Kohen devra effectuer un prélèvement sur cette huile avec la poignée de sa main. Ce prélèvement sera offert pour être brûlé sur l'autel, Veshiara Vne Chalim, et les restes seront consommés par les Kohanim. La Gemara demande Maïtama, pourquoi, d'où sait-il qu'il est possible d'offrir une offrande à base d'huile? Agman répond à Makra, c'est parce que le Passouk dit dans Vaïkrabet, en parlant de l'offrande à base de farine, si tu désires offrir Korban Mincha, un sacrifice qui est une offrande à base de farine, le terme de Korban, sacrifice, est en plus. Le Passouk aurait pu se contenter de s'exprimer en disant, lorsque tu voudras offrir une offrande. Alors c'est pourquoi Melamed, ce terme de Korban, t'enseigne, Shemit Nadvin Shemen, qu'on peut offrir de l'huile en tant que sacrifice. Vechi mincha, elle sera offerte comme une offrande à base de farine. Ma mincha komtsa vechiari anechalim, de même que pour l'offrande à base de farine, le Kohen effectue un prélèvement avec la poignée de sa main qu'il offre sur l'autel pour être brûlé, et les restes sont consommés par les Kohanim. Av shemen, il en est de même pour l'huile qui est offerte. Komtso, le Kohen effectuera un prélèvement avec la poignée de sa main qu'il offrira pour être brûlé sur l'autel. Vechiari anechalim, et ses restes seront consommés par les Kohanim. Amar Rabbi Zera, Afanan Nami Tanina, nous avons enseigné ainsi cela dans notre Mishnah, puisque notre Mishnah dit, Amar Rabbi Shimon, Imraïta Shemen Shemitralek Baazara, si tu vois de l'huile partagée dans la cour du sanctuaire pour être consommée par les Kohanim, Yata Tsarich Lishol Mahu, tu n'as pas besoin de demander qu'est-ce que c'est que cette huile qui est partagée, et là, Motar Rekike Menachot Israël, il ne peut s'agir que des restes d'une offrande à base de farine offerte par le Israël sous forme de galette qui est ointe avec de l'huile donc le reste de l'huile est partagé par les Kohanim, velug shemen shel metzora, ou bien le reste du lug d'huile offert par le lépreux lorsqu'il offre les sacrifices de sa purification. Puis la Mishnah conclut, shen mitnadvim, car on ne peut pas offrir d'huile en tant que sacrifice. Miklal, nous pouvons déduire donc de la Mishnah, demande à Amar mitnadvim, que selon l'avis qui dit qu'on peut offrir de l'huile en tant que sacrifice, mitralek, cette huile peut être aussi partagée. Et donc, selon cet avis, il y a à se demander qu'est-ce que c'est que cette huile qui est partagée. Est-ce qu'il s'agit d'un reste d'offrande à base de farine ou bien s'il s'agit d'un reste d'un sacrifice d'huile? Amarle, Abaye, Abaye lui a demandé, et Masefa, voyons voir la fin de la Mishnah. En effet, la Mishnah dit, Imraita shemen shenitan al gabe aishim, si tu vois de l'huile qui est mise sur le feu de l'autel pour y être brûlée, yata tsarich lishol mahu, tu n'as pas besoin de demander qu'est-ce que c'est que cette huile, et la mota rekike milchat kohanim, il ne peut s'agir que des restes d'une offrande à base de farine sous forme de galette offerte par les kohanim, donc qui doit être entièrement brûlée, comme nous l'avons expliqué, ou minchat kohen mashiach, ou bien le reste de l'huile de l'offrande journalière à base de farine qu'offre le kohen gadol. She'en mitnadvin shemen, et là-dessus la Mishnah conclut, car on ne peut pas offrir de l'huile en tant que sacrifice. Alors, puisque la Mishnah dit cela, Miklal, nous pouvons donc déduire de l'éman d'Amar mitnadev que selon l'avis qui dit qu'on peut offrir de l'huile en tant que sacrifice, kulan leishim, toute cette huile est mise à brûler sur le feu de l'autel. Donc finalement, les Abayé, selon l'opinion des Abayé, qui voudrait dire que lorsqu'une personne offre de l'huile en tant que sacrifice, celle-ci est brûlée entièrement sur l'autel, kashia resha, nous avons une difficulté à partir du début de la Mishnah. Les Rabbi Zera, selon l'opinion de Rabbi Zera, qui voulait prouver l'opinion de Shmuel à partir de la Mishnah, donc que seule une partie de cette huile est offerte et le reste est partagé parmi les Kohanim, kashia sefa, nous avons une difficulté à partir de la fin de la Mishnah. Bishlama les Rabbi Zera, on peut encore comprendre l'opinion de Rabbi Zera. On pourrait expliquer ces passages contradictoires de la Mishnah de la manière suivante. Resha, le début de la Mishnah, Beshiraim parle des restes de l'huile qui reste donc après le prélèvement, qui est effectivement partagé parmi les Kohanim. Sefa, tandis que la fin de la Mishnah, Bekometz, parle du prélèvement avec la poignée du Kohen qui est offerte pour être brûlée sur l'autel. D'ailleurs, comme le font remarquer le Sfat Emet et le Olat Shlomo, on aurait pu dire que la fin de la Mishnah parle d'un sacrifice d'huile offert par le Kohen qui sera entièrement brûlé sur l'autel comme n'importe quelle offrande d'un Kohen. Et là, les Abayé, mais selon l'opinion de Abayé, Kashia, nous avons une difficulté du début de la Mishnah, comme nous l'avons expliqué. L'Agma répond, Tana Resha Atusefa. La Mishnah a enseigné le premier cas, donc, pour dire qu'il n'y a pas à se poser de questions sur de l'huile qui se partage parmi les Kohanim, à cause de ce qu'elle enseignera à la fin de la Mishnah. Mais en effet, en ce qui concerne l'huile partagée parmi les Kohanim, il n'y a pas de doute à ce sujet, même selon l'avis qui dit qu'on peut offrir un sacrifice d'huile. Alors la Gemara demande, Bishlama sefa tane mishum resha, on comprend bien que des fois la Mishnah enseigne un cas à la fin de cette Mishnah à cause de ce qui a été enseigné au début. Et là, resha mishum sefa mitane, existe-t-il des cas où la Mishnah rédige un cas au début à cause de ce qui sera enseigné par la suite? La Gemara répond, in oui, il existe des fois où la Mishnah rédige un cas en son début à cause de ce qui sera enseigné à la fin. Car Amrei b'Ma'arava, les sages ont dit en Eretz Israël, Tana Resha Mishum Sefa, il existe des cas où l'auteur de la Mishnah rédige un cas en son début à cause de ce qui sera enseigné à la fin. Donc finalement, même si le premier cas de la Mishnah n'était pas nécessaire, car de toute façon, il n'y a aucune question à se poser sur l'huile partagée parmi les Kohanim, la Mishnah l'a enseigné à cause de la fin, ou selon l'avis qui dit qu'on peut offrir un sacrifice d'huile, lorsqu'on voit de l'huile qui est mise à brûler sur l'autel, on peut se poser la question, à savoir, qu'est-ce que c'est que cette huile? Peut-être qu'il s'agit d'un sacrifice d'huile. La Gemara dit, Tashma, viens écoute une preuve d'une braïta qui dit, Yaïn, le vin, qui est divré à Rabbi Akiva, selon l'opinion de Rabbi Akiva, qui dit qu'on peut offrir un sacrifice de vin, l'esphalim, on le verse dans les espèces de coupes qui se trouvent au sommet de l'autel, puis il finit par arriver dans les cavités qui se trouvent aux fondations de l'autel. La Braïta dit cela car dans Maseret Menachot, Daf Kufdalet Amudbet, il y a une discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. Selon Rabbi Akiva, il existe un sacrifice de vin, mais pas de sacrifice d'huile. Tandis que selon Rabbi Tarfon, il existe aussi un sacrifice d'huile. Donc c'est pour cela que la Braïta dit que selon l'opinion de Rabbi Akiva, que seul le sacrifice de vin existe, ce vin est versé donc dans ces coupes qui se trouvent au sommet de l'autel. Shemen, que divrei Rabbi Tarfon, un sacrifice d'huile, selon les paroles de Rabbi Tarfon, les ishim, sont offertes pour être brûlées sur le feu. Maïlav, n'est-ce pas que c'est cela qu'il veut dire? Mideyain kulo lesfalim, de même que tout le vin dont on a parlé au début de la Braïta est entièrement versé dans les coupes qui se trouvent au sommet de l'autel. Shemen kulo laishim, l'huile est aussi entièrement mise sur le feu pour y être brûlée. Donc finalement, ce serait une preuve pour l'opinion de Abaye. L'agma réfute, Mideiria, peux-tu prouver cela de cette Braïta? Ha, ceci, donc le vin Kedeita, est offert comme il se doit, c'est-à-dire il est versé entièrement dans les coupes qui se trouvent au sommet de l'autel, veha, tandis que celui-ci, l'huile, Kedeita, est offerte comme il se doit, c'est-à-dire une partie est offerte sur le feu, tandis que le reste est partagé parmi les Kohanim. Amar Papa Ketanae, cette discussion entre Shmuel et Abaye correspond à une discussion entre des Tanaïm. Il s'agit d'une Mishnah dans Maseret Menachot Daf Kuf Zayin Amud Alef qui dit Shemen, une personne qui veut faire un sacrifice d'huile, loifrot melug, il n'offrira pas moins qu'un loug d'huile. Rebbi Omer, shlosha lougim, il doit au moins offrir une quantité de 3 lougs d'huile. En l'agmar demande Maïka Miflegé, en quoi discute le premier auteur de la Mishnah et Rebbi? L'agmar répond Amroha Rabbanan Kameh de Rav Papa, les élèves qui étaient devant Rav Papa lui ont dit la chose suivante. Dun mina umina, c'est concernant le principe. Si lorsqu'on apprend quelque chose d'un endroit, on l'apprend entièrement de cet endroit, ou dun mina ve ukebeatra, ou bien lorsqu'on apprend quelque chose d'un endroit, les lois qu'on peut apprendre de son contexte, on les apprend de son contexte et pas de l'autre endroit, ikabenayu, c'est cela leur sujet de discussion. Car, comme nous l'avons vu précédemment, nous apprenons du terme de korban concernant les offrandes à base de farine qu'il existe un sacrifice d'huile. Alors, des Rabbanan, Savri les Chachamim pensent, puisque nous apprenons le principe qu'il existe un sacrifice d'huile, des lois concernant l'offrande à base de farine, alors nous dirons, Ma mincha mitnadvim, de même qu'on peut offrir une offrande à base de farine, Af shemen mitnadvim, on peut aussi offrir une offrande à base d'huile. Donc, puisque nous apprenons des lois concernant l'offrande à base de farine, comme nous l'avons expliqué, Umina, nous apprenons aussi les autres lois de ce même endroit, donc des lois concernant l'offrande à base de farine. Ma mincha, de même que pour l'offrande à base de farine, loug shemen, il faut une quantité d'un loug d'huile. Afkan, ainsi aussi, pour le sacrifice d'huile, loug shemen, il faudra une quantité d'un loug d'huile. Alors, puisque selon les chachamim, nous apprenons les lois concernant le sacrifice d'huile, des lois concernant l'offrande à base de farine, nous pouvons poursuivre ce raisonnement en disant « Uma mincha komtsa veshehari anichalim » De même qu'en ce qui concerne l'offrande à base de farine, le Kohen effectue un prélèvement avec sa poignée qu'il offre pour être brûlé sur l'autel et les restes sont consommés par les Kohanim. « Avshemen » Ainsi, pour le sacrifice d'huile, « komtso » Il effectuera un prélèvement avec la poignée de sa main qu'il offrira sur l'autel pour être brûlé. « Veshehari anichalim » Et les restes seront consommés par les Kohanim. « Veidach » Tandis que l'autre, Rebbi pense, Mimincha, nous apprenons le principe qu'il existe un sacrifice d'huile, des lois concernant l'offrande à base de farine. Mamincha mitnadvim, de même qu'on peut offrir une offrande à base de farine, Af shemen mitnadvim, ainsi on peut offrir une offrande à base d'huile. Vokebeatra, mais en ce qui concerne les autres lois concernant le sacrifice d'huile, nous le laissons dans son contexte. Kenesachim, nous le comparons aux libations. Car, de même que les libations de vin, par exemple, viennent toutes seules, sans mélange, l'huile aussi que cette personne veut offrir vient toute seule. Donc finalement, elle ne ressemble pas vraiment à une offrande à base de farine dans laquelle il y a un mélange de farine et d'huile. Donc, nous comparerons le sacrifice d'huile aux libations, man et sachim, de même que pour les libations, shloshet lugim, il y a un minimum de 3 lougs de vin. Avshemen, ainsi pour le sacrifice d'huile, shalosh lugim, il faudra une quantité de 3 louks d'huile. Alors si nous poursuivons ce raisonnement jusqu'au bout et nous apprenons les lois concernant le sacrifice d'huile du contexte des libations qui ressemblent au sacrifice d'huile, nous pourrons dire Uman esachim kulan lesfalim, de même que pour les libations, elles sont entièrement versées dans les coupes se trouvant au sommet de l'autel. Af shemen kulam leishim, ainsi l'huile sera entièrement mise sur le feu pour être brûlée, car il n'existe aucun sacrifice où on verse l'huile dans les coupes se trouvant au sommet de l'autel, tandis que pour le vin ou les libations, en général, elles sont versées dans les coupes se trouvant au sommet de l'autel. Et en ce qui concerne le vin, il est évident qu'il ne sera pas partagé parmi les Kohanim, car nous apprenons d'un autre passouk qu'il existe une offrande de vin, comme nous le verrons par la suite. Il s'agit d'un passouk dans le paragraphe concernant les libations. Donc il est évident que l'offrande de vin sera comparée aux libations et sera entièrement mise sur l'autel. Donc en conclusion, cette discussion entre Shmuel et Abaye est la même que celle qui existe entre le premier auteur de la Mishnah que nous venons de voir et Rebbi. Amarle, Rav Papa le Abaye. Rav Papa a réfuté à Abaye qui a proposé cette interprétation de la discussion entre le premier auteur de la Mishnah et Rebbi. I mimincha maitela Rebbi. Si Rebbi était d'accord avec le premier auteur de la Mishnah qu'on apprenait qu'il existe un sacrifice d'huile du pasouk concernant l'offrande à base de farine, de Kula Alma, tout le monde aurait été d'accord, donc même Rebbi aurait été d'accord que Dulmina ou Mina, que lorsqu'on apprend quelque chose d'un endroit, on l'apprend entièrement, même pour les autres lois qu'on pourrait apprendre de son contexte. Donc même Rebbi aurait été d'accord que la quantité minimale pour le sacrifice d'huile aurait été d'un loug, et cette offrande aurait nécessité un prélèvement avec la poignée du Kohen qui serait offerte pour être brûlée sur l'autel, et le reste aurait été partagé entre les Kohanim. Et là, plutôt Rebbi, mais Ezra Gamarla, Rebbi l'apprend d'un pasouk dans Bamidbar Tetvav concernant les libations. Le pasouk dit Kol ha'ezrach, etc. Tout résident fera ainsi cela, donc accompagnera les sacrifices de libation lorsqu'il désire offrir un sacrifice pour être brûlé pour Akadosh Baruch Hu et qu'il dégage une bonne odeur. Ce pasouk est en plus pour nous enseigner qu'en plus des libations exigées pour le sacrifice, tout résident peut offrir une offrande qui ressemble aux libations, donc soit un sacrifice de vin, soit un sacrifice d'huile. Et c'est pour cela donc que selon lui, la quantité nécessaire pour le sacrifice d'huile est de 3 lougs, comme pour les libations, et aussi ce sacrifice d'huile est offert pour être brûlé sur l'autel. Amarle, Rav Huna Bere de Rav Nathan Rav Papa, Mimatsit Amar Tachi, peux-tu dire une chose pareille, que Rebbi apprend le principe qu'il existe un sacrifice d'huile du pasouk concernant les libations et non pas du pasouk concernant l'offrande à base de farine? Vatania, pourtant, il est enseigné dans une braïta, Korban Mincha, lorsque le pasouk dit un sacrifice qui est une offrande à base de farine, comme nous l'avons dit précédemment, le terme de Korban est en plus, mais la Med, cela t'enseigne, chez Mitnadvin Shemen, qu'on peut offrir une offrande d'huile Vekama, et quelle est la quantité pour cette offrande? Shlosha Lugin, c'est 3 lougs. Uman Shematle Dama Shlosha Lugin, qui as-tu entendu dire que la quantité nécessaire pour le sacrifice d'huile est de 3 lougs? Rebihi, c'est Rebi. Vekama itela me Korban, et tu vois clairement qu'il l'apprend du pasouk Korban concernant l'offrande à base de farine. Amarle, Rafapa lui a répondu, Itania, si c'est enseigné clairement dans une braïta, Tania s'est enseigné, donc j'accepte cette interprétation de la discussion entre le premier auteur de la Mishnah et Rebbi. Amar Shmuel, Hamitnadev Yain, celui qui offre du vin, donc qui veut faire un sacrifice de vin, Mevi, il emmène une quantité de 3 lougs de vin, ou Mezalfo Algabe Aishim, et il l'arrose par petite quantité sur le feu qui se trouve sur l'autel. Maitama, pourquoi? Amarkra, c'est parce que le pasouk dit dans Bamidbar Tetvav concernant les libations, Veyain takriv la neser chatsi hahin, et tu offriras du vin pour des libations une quantité d'un demi-hin, soit 6 lougs. Il s'agit des libations qui accompagnent un taureau qui a été offert comme sacrifice. Ishe reach nichoach lachem, il sera offert sur le feu, et cela dégagera une bonne odeur pour Akadosh Baruch Hu. Or, nous savons que les libations sont versées sur les coupes qui se trouvent au sommet de l'autel et qui finissent par aboutir dans les cavités se trouvant sous les fondation de l'autel et non pas sur le feu. De ce passouk, nous apprenons donc qu'il existe une offrande de vin qui est versée sur le feu. Il s'agit donc d'une offrande de vin qui ne vient pas accompagner un sacrifice. La Gemara demande « Vehaka mechabe ». Pourtant, en versant le vin sur le feu, il éteint le feu de l'autel, ce qui est interdit comme le passouk le dit dans « Vaikravav ». Il répond « Kibouy bemiktat loshemeh kibouy ». Le fait d'éteindre en partie, donc seulement une partie du feu, n'est pas considéré comme éteindre le feu de l'autel. Donc, en éteignant qu'une seule partie du feu, il ne transgresse pas cette interdiction. La Gemara demande, Eni, ce n'est pas vrai. Veha amar Rav Nachman amar Rabba Baravua, Hamorid Gachelet Me'al Gabe Mizbeach, celui qui fait descendre une braise du sommet de l'autel, Vechiba, et il l'a éteinte, Chayav, il s'est rendu coupable d'avoir transgressé l'interdiction d'éteindre le feu de l'autel. La Gemara répond, Deleka Elahai, il s'agit d'un cas où il n'y avait que cette braise sur l'autel, donc finalement, il a éteint tout le feu de l'autel. Mais sinon, s'il reste encore du feu sur l'autel, il ne transgressera pas cette interdiction s'il éteint simplement une braise. Ibaïtema, et si tu veux, je te donnerai une autre réponse. Même si tu veux dire donc qu'en éteignant une partie du feu de l'autel, il transgresse cette interdiction, qui bouille de mitzvah, le fait d'éteindre dans le cadre de l'accomplissement d'une mitzvah, d'un commandement, Sha'ani, c'est différent. Dans ce cas, il ne transgresse pas l'interdiction s'il n'éteint qu'une partie du feu. La Gemara dit, Tashma, viens écoute une preuve d'une braïta de Tana Rabbi Eliezer ben Yaakov. Nous lisons selon la Shita Mkubetset, Klapesh Natna Torah Reshut Litrom, du fait que la Torah donnait la permission de prélever des cendres de l'autel. En effet, il existe un commandement de prélever tous les jours de la cendre de l'autel. Yachol Yechabe Veitrom, s'il ne trouve pas de cendres mais encore des braises rougeoyantes, aurait-il peut-être la permission d'éteindre ces braises pour effectuer ce prélèvement? Amar, tu peux le dire toi-même. Le pasouk dit dans Vaikravav, nous lisons selon la note marginale, Lotirbe, tu n'as pas le droit d'éteindre le feu de l'autel. Nous voyons donc que cette braïta dit clairement que même dans le cadre de l'accomplissement d'une mitzvah, d'un commandement, il est interdit d'éteindre même une partie du feu de l'autel. La Gemara répond, Shani Atam, là-bas c'est différent. Car Efchar Diatif Venatar, il peut s'asseoir et attendre que les braises s'éteignent pour effectuer ce prélèvement. Il n'y a rien qui presse. Tandis que pour cette offrande de vin, il n'a pas d'autre choix que de le verser sur le feu de l'autel. Et c'est pourquoi, puisque c'est dans le cadre de l'accomplissement d'une mitzvah, il lui sera permis d'éteindre une partie du feu de l'autel. La Gemara dit, Tashma, viens écoute une preuve d'une braïta que nous avons vue précédemment. Yaïn, pour une offrande de vin qui dit Rabbi Akiva selon les paroles de Rabbi Akiva qui dit qu'il n'existe que des offrandes de vin mais non pas des offrandes d'huile, les sphalim, il faut verser ce vin dans les coupes se trouvant au sommet de l'autel. Shemen, qui dit Rabbi Tarfon, pour une offrande d'huile selon l'avis de Rabbi Tarfon qui dit qu'il existe même aussi des offrandes d'huile, laishim, on verse cette huile sur le feu. Nous voyons donc clairement dans cette braïta que le vin n'est pas versé sur le feu, mais dans les coupes se trouvant au sommet de l'autel. Ve'od de Tanya, et encore il est enseigné dans une braïta. Yaïn Neser, les vins des libations, les sphalim, faut-il les verser dans les coupes se trouvant au sommet de l'autel? O eno ela laishim, ou bien plutôt, il faut les verser sur le feu, comme le pasouk le dit. Il s'agit du pasouk que nous avons mentionné précédemment, qui dit Isher et Achnichor Lachem, que ces libations sont offertes sur le feu, pour dégager une bonne odeur pour Hachem. Amart, alors il répond, tu peux le dire toi-même. Loïrbe, le pasouk dit, dans Vaikravav, tu n'as pas le droit d'éteindre le feu de l'autel. Forcément, on ne pourra pas appliquer le pasouk à la lettre, mais on dira que les libations seront versées dans les coupes se trouvant au sommet de l'autel. Donc nous voyons là aussi que même dans le cadre de l'accomplissement d'une mitzvah, il est interdit d'éteindre le feu de l'autel. Et c'est d'ailleurs de là que nous apprenons que les libations sont versées dans les coupes se trouvant au sommet de l'autel. La Gemara répond, la Kashia, il n'y a pas de contradiction. Ha, cette dernière braïta que nous avons vue, qui nous enseigne que les libations ne peuvent pas être versées sur le feu de l'autel, Rabbi Yehuda suive l'opinion de Rabbi Yehuda, qui dit que lorsqu'une action est interdite, elle est interdite même lorsque la personne n'a pas eu l'intention d'obtenir ce résultat. Par conséquent, si une personne verse le vin sur le feu de l'autel, même s'il n'a pas l'intention que le feu s'éteigne, cette action est quand même interdite. C'est pourquoi, selon lui, il faudra toujours verser le vin dans les coupes se trouvant au sommet de l'autel, même lorsqu'il s'agit d'une offrande de vin. Ah, tandis que celle-ci, l'opinion de Shmuel, Rabbi Shimon suit l'opinion de Rabbi Shimon, qui dit que lorsqu'une action est interdite, si une personne n'a pas eu l'intention d'obtenir ce résultat, cette action est permise. Il est vrai que lorsqu'une personne verse du vin sur le feu, il est évident qu'une partie du feu sera éteinte. Par conséquent, on ne pourrait pas dire qu'il n'a pas eu l'intention d'obtenir ce résultat. Cependant, il existe quand même une possibilité, c'est de verser ce vin goutte à goutte, donc par petite quantité. Dans ce cas, le feu ne s'éteint pas. Nous pouvons donc toujours considérer qu'il n'a pas eu l'intention d'éteindre ce feu et cette action sera donc permise. C'est d'ailleurs pour cela que Shmuel s'exprime en disant qu'il l'arrose par petite quantité sur le feu. Cependant, puisque cette action est permise, même si les gouttes sont un peu plus grandes, elles éteignent une partie du feu, il s'agit d'une action où la personne n'a pas l'intention d'obtenir le résultat, et ce sera donc permis selon Rabbi Shimon. Les memra de Shmuel qui Rabbi Shimon sur Alé, nous pouvons donc déduire de là que Shmuel pense comme Rabbi Shimon, Veha Amar Shmuel, pourtant Shmuel dit, Mechabin gachelet shel matechet birshut rabin, il est permis d'éteindre une braise de métal dans le domaine public pendant Shabbat, c'est-à-dire verser de l'eau sur un morceau de métal qui est rougi par le feu, bishvil shelo yazuku baharabim, pour ne pas que le public soit endommagé par cette braise ou ce morceau de métal rougeoyant, car il n'y a pas d'interdiction minatora de le faire, il ne s'agit que d'une interdiction midrabanan. Elle a été levée dans le cas où il y a un risque de blessure.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.